Chapitre 14. Nous avons dit les goûts étranges du jeune duc de Vendôme et combien ces goûts désespéraient Henri IV. Le roi jugea qu'il n'y avait à Paris qu'une femme qui dût l'enguérir et résolut, en bon père qu'il était, de négocier l'affaire lui-même. Cette femme, c'était la célèbre mademoiselle Paulet. Angélique Paulet était née vers 1592. Elle n'avait donc que 18 ans à la mort du roi. Saumaise lui donna place plus tard, sous le nom de Parthénie, dans son grand dictionnaire historique des précieuses. Elle était fille de Charles Paulet, secrétaire de la chambre du roi, et l'inventeur de l'impôt que, de son nom, on appela la Paulette. Cet impôt consistait en une redevance que payaient chaque année les officiers de justice ou des finances, afin, en cas de mort, de conserver à leurs héritiers le droit de disposer de leurs charges. Mademoiselle Paulet avait beaucoup de vivacité, la taille fine, était jolie, dansait bien, jouait admirablement du luth et chantait mieux qu'aucune personne de son temps. C'est sur elle qu'on fit la fable des rossignols morts de jalousie pour l'avoir entendue chanter. Seulement, elle avait les cheveux roux. Remarquez que ce n'est pas moi qui m'en plains, c'est Allemand des Réaux, mais des cheveux d'un si beau roux que c'était un charme de plus. Voyez plutôt ce que Saumaise en dit. Rousse, voici votre consolation, et Parthénie, dont je parle, et qui a eu les cheveux de cette couleur, est une précieuse dont l'exemple suffit pour faire voir qu'elles sont autant capables de donner de l'amour que les brunes ou les blondes. Elle avait été du ballet où Mademoiselle de Montmorency s'était emparée du cœur du roi. Elle apparaissait sur un dauphin, et comme elle était charmante ainsi, on fit sur elle le quatrain suivant. Qui fut le mieux du ballet? Ce fut la petite Paulet. Montée sur un dauphin, qui montera sur elle, enfin? Elle y chantait d'une voix ravissante les vers de Ligende, qui commençaient ainsi. Je suis cet Amphion. Henri IV, ne pouvant pour lui avoir la belle danseuse qu'on appelait Mademoiselle de Montmorency, voulut au moins avoir pour son fils la belle chanteuse qui avait nom Mademoiselle Paulet. Ce fut la première femme qui reçut le surnom de Lionne, surnom ressuscité de nos jours dans les mêmes conditions. Que l'on en juge. L'ardeur avec laquelle elle aimait, dit Allemand des Réaux, son courage, sa fierté, ses yeux vifs, ses cheveux trop dorés, lui firent donner le surnom de Lionne. Ce fut, à ce qu'on assure, en se rendant chez Mademoiselle Paulet, dans ce but tout paternel, qu'Henri IV fut assassiné. Donnons quelques détails sur l'assassin. Il y avait à Angoulême, dit Michelet, un homme fort exemplaire qui nourrissait sa mère de son travail et vivait avec elle en grande dévotion. On le nommait Ravaillac. Malheureusement pour lui, il avait une mine sinistre qui mettait en défiance. Cette mine sinistre venait de ses malheurs personnels. Son père s'était ruiné, sa mère s'était séparée de son père. Pour soutenir sa mère, il s'était fait valet d'un conseiller au Parlement, limier de procès. Mais quand les procès manquaient, plus d'appointements. Il y avait alors des écoliers qui le payaient en denrées, selon le commerce que faisaient leurs parents. Un meurtre eut lieu dans la ville. Ravaillac avait un aspect tellement sinistre qu'on s'en prit à lui. Grand et fort, il avait les bras rudes, les mains pesantes. Il était jaune de visage, étant de nature bilieuse, rouge de cheveux et de barbe d'un roux foncé. Comme le cuivre. On le voit, tout cela n'était point attrayant. Et cependant, il n'était aucunement coupable du meurtre dont on l'accusait. Au bout d'un an de prison, il sortit, honorablement acquitté, mais plus bilieux que jamais. Il était en outre endetté, si bien qu'il ne sortit par une porte que pour entrer par l'autre. Ce fut dans ce cachot pour dettes que son cerveau s'exalta. Il se mit à faire de mauvais vers, plats et prétentieux, comme ceux de Lacenaire. Puis les visions s'en mêlèrent. Un jour, en allumant son feu, il vit un sarment de vigne qui s'allongeait, changeait de forme et devenait une trompette. Il mit cette trompette Il mit cette trompette à sa bouche et elle sonna toute seule une fanfare de guerre et en même temps qu'il sonnait ainsi la guerre sainte, des flots d'hosties s'échappaient à droite et à gauche de sa bouche. Dès lors, il vit bien qu'il était destiné à une grande chose, à une chose sainte. À une chose sainte. En conséquence, il se mit à la théologie, l'étudia, et surtout sur ce point qui avait tant préoccupé le Moyen-Âge, est-il permis de tuer un roi ? Ravaillac ajoutait, quand ce roi est ennemi du pape. On lui prêta Manaria et les autres casuistes qui avaient écrit sur la question. Soit que ses dettes furent payées, soit que son créancier ou ses créanciers se lassassent de le nourrir, il sortit de prison. Ce fut alors qu'il raconta ses visions et que le bruit s'en répandit. On fit aussitôt connaître au duc d'Épernon, à cet ancien mignon de Henri III que vous savez, qu'il y avait dans sa ville, né sur la place qui portait son nom, un saint homme visité de l'Esprit de Dieu. Le duc d'Épernon vit Ravaillac, écouta ses billevesées, devina le parti qu'on pouvait tirer d'un homme qui allait demandant à tout le monde « Peut-on tuer un roi ennemi du pape ?» le chargea d'aller suivre un procès qu'il avait à Paris, lui donna des lettres pour le père d'Entragues qui avait été condamné à mort, on se le rappelle, pour conspiration contre Henri IV, ainsi que pour Henriette d'Entragues, cette indocile maîtresse du roi, toujours en guerre avec lui. Le père et la fille le reçurent à merveille, lui donnèrent un valet pour l'accompagner et, à Paris, l'adresse d'une femme à Henriette pour qu'il sût tout descendre. Elle se nommait la dame d'Escaumont. La dame d'Escaumont fut fort effrayée à la vue du sombre personnage. Elle crut voir entrer le malheur en personne. Elle ne se trompait point. Mais Ravaillac était si bien recommandé qu'elle ne l'en reçut pas moins bien et que, revenant, en voyant ce doux et pieux personnage sur ses premières idées, elle le chargea d'une affaire au palais. Mais Ravaillac ne resta point à Paris. Le duc d'Épernon avait en lui une telle confiance qu'il l'envoya à Naples. C'est là que, en dînant chez Hébert, il annonça, comme nous l'avons dit, qu'il tuerait le roi. En effet, c'était le moment de tuer le roi. Il venait de garantir la Hollande et de refuser le double mariage espagnol. Ravaillac revint donc en toute hâte à Paris pour exécuter son dessein, descendit chez son ancienne hôtesse et, la sachant femme de confiance des ennemis du roi, s'ouvrit à elle de son projet. La pauvre femme était légère et galante, mais avait un bon cœur, un cœur français. La chose l'épouvanta et elle résolut de sauver le roi. C'était au temps des plus folles amours de Henri IV pour Mademoiselle de Montmorency. Il ne pensait à rien autre chose que la fuite en Espagne de son neveu Condé. Il est vrai que celui-ci avait soin de le faire souvenir qu'il habitait chez ses ennemis. Il venait de lancer un manifeste contre le roi, tout dans l'intérêt du peuple. Ce manifeste eut un écho dans la noblesse et chez les parlementaires, deux classes mécontentes du roi. On disait tout haut qu'aucun des enfants du roi n'étant de lui, autant et mieux valait pour lui succéder un Condé qu'un bâtard. On oubliait que, selon toute probabilité, le Condé était bâtard lui-même. Sur ces entrefaites, Henri conclut le 10 février 1610 le traité de guerre avec les princes protestants. Il attaquait l'Espagne et l'Italie et entrait en Allemagne avec trois armées à la fois, et les généraux commandant ces trois armées étaient tous trois protestants. Quant au duc d'Épernon, colonel général de l'infanterie et serviteur très humble des jésuites, contre lesquels en réalité se faisait ce grand armement, on le laissait à Paris. Le roi venait de faire couper la tête à un de ses hommes qui avait bravé l'édit contre les duels. Puis, en même temps, le roi, imprudemment, laissait humilier un autre homme bien autrement dangereux que le duc d'Épernon. C'était le cavalier servant de la reine, Maître Concino Concini. Un jour, le parlement défilait en robe rouge et tous, selon l'étiquette, avaient le chapeau bas. Il garda, lui, son chapeau sur la tête. Le président Séguier, en passant, allongea la main, prit le chapeau et le posa à terre. Un autre jour, le même Concino Concini faisant semblant d'ignorer les privilèges du Parlement, entra dans la chambre des enquêtes, en bottes éperonnées, l'épée au côté et le chapeau à panache sur la tête. Cette fois, ce fut tout simplement l'affaire des clercs. Il lui courut dessus, et, quoique le brave Hache eût avec lui une douzaine de domestiques, il fut bourré, houspillé, plumé d'importance. Et les gens qui vinrent à son secours n'eurent que le temps tout juste de le cacher dans un four, d'où il ne sortit que le soir. Concini se plaignit à la reine et la reine au roi. Mais, comme on le pense bien, le roi donna raison au président Séguier et même au petit clerc. On rapporta au roi que Concini avait menacé les parlementaires de son épée. « Bon, bon, qu'ils menacent !» avait répondu le roi. « Leur plume a un bien autre fil que l'épée d'un Italien. » La reine fut exaspérée. Ce fut au plus fort de cette exaspération que la dame d'Escaumont lui fit dire qu'elle avait à lui donner un avis essentiel au salut du roi. En preuve, elle offrait de faire saisir dès le lendemain certaines lettres arrivées d'Espagne. La reine fut 3 jours sans répondre autre chose, sinon qu'elle l'écouterait, et définitivement, elle ne l'écouta point. La d'Escaumont, épouvantée d'un pareil silence de la part d'une femme quand il s'agit du salut de son mari et de son roi, courut à la rue Saint-Antoine pour tout révéler au père Coton, confesseur du roi. Elle ne fut pas reçue. Elle insista et finit par parler au père procureur, qui refusa d'avertir le père Coton et se contenta de répondre « Je demanderai au ciel ce que je dois faire. » « Mais si, en attendant, on tue le roi !» s'écria la d'Escaumont. « Femme, mêlez-vous de vos affaires !» répondit le jésuite. Le lendemain, la d'Escaumont fut arrêtée. Convenons qu'elle le méritait bien. Mais le bruit de cette arrestation pouvait parvenir aux oreilles du roi. Bon, avant que le bruit lui parvînt, le roi serait tué. La pauvre prisonnière était si loin de se douter d'où lui venait son arrestation que, du fond de sa prison, elle continua de s'adresser à la reine. De son côté, la reine mettait tout en œuvre pour être faite régente. Le départ du roi, les dangers qu'il courait à l'armée étaient un suffisant prétexte. On s'en servit tant et si bien que le roi se lassa et consentit à son sacre. Elle fut sacrée à Saint-Denis et y fit une entrée magnifique. Mais, en gascon qu'il était, le roi avait éludé la chose. Il avait fait sacrer la reine et ne l'avait pas faite régente, lui donnant une voix au conseil, voilà tout. C'était à la fois plus ou moins qu'elle ne demandait. Le roi était plus triste que jamais, vous verrez cela, le roi était plus triste que jamais, vous verrez cela dans les mémoires de Sully. Sully dit en toutes lettres, le roi attendait de ce sacre les plus grands malheurs. Tous les visages étaient maussades autour de lui, et le gai gascon aimait les visages gais. Il aimait le peuple et avait besoin de se croire aimé du peuple, où le peuple n'était pas heureux. Un jour, comme il passait près des innocents, à 100 pas peut-être de l'endroit où il fut assassiné, un homme à l'habit vert lui cria « Sire, au nom de notre Seigneur et de la très sainte Vierge, il faut que je vous parle. » Cet homme était Ravaillac. Il dit qu'il appelait le roi pour l'avertir. Il voulait lui demander si véritablement il voulait faire la guerre au pape. Sans doute, la mort du roi était subordonnée à la réponse. Il voulait encore savoir du roi s'il était vrai que les Huguenots préparassent le massacre des catholiques. Le malheureux était comme possédé, ne pouvant tenir en place. Il s'alla un jour réfugier dans un couvent de feuillants qui ne le voulurent point garder. Il alla frapper alors à un couvent de jésuites. Les jésuites le repoussèrent sous prétexte qu'il sortait de chez les feuillants. Au reste, il parlait de son projet à tout le monde, demandant conseil à tout le monde, de sorte qu'en se rencontrant, les gens se disaient « Vous savez, le tueur du roi est à Paris. » Un jour, il quitta Paris et retourna à Angoulême. Il hésitait comme on voit. Mais une sainte communion, lui-même le dit, lui rendit la force. Mais une sainte communion, lui-même le dit, lui rendit la force. Il vint à Paris en avril 1610 pour faire le coup. Dans l'auberge où il était, il prit un couteau et le cacha dans sa manche. Puis, sous l'empire d'un nouveau remords, Une fois encore, il quitta Paris pour retourner à Angoulême. Il fit plus. De peur que la vue de son couteau ne le tentât, il en brisa la longueur d'un pouce à une charrette qui passait. Mais, à Étampes, la vue d'un crucifix lui rendit tout son courage. Ce n'était plus le Christ qui était crucifié par les Juifs, c'était la religion qui était crucifiée par les protestants. Plein de rage, il revint à Paris. Et cependant, la pauvre d'Escoman ne se lassait pas et faisait de son mieux. Par la demoiselle de Gournay, fille adoptive de Montaigne, elle fit parvenir l'avis de l'assassinat à un ami de Sully. L'ami de Sully courut à l'arsenal. Et lui, Sully et sa femme, délibérèrent sur ce qu'il y avait à faire. On transmit l'avis au roi, mais faiblement, sans trop l'appuyer, lui disant que, s'il voulait, on le ferait parler aux deux femmes. Mais Henri semblait las de lutter, sentant contre qui il luttait. D'ailleurs, dans 3 jours, il partait. Il ne se rappela point Coligny, qui, dans 3 jours, partait aussi. Et cependant, durant la nuit du 13 au 14, ne pouvant trouver le repos, le sceptique se leva, s'agenouilla, tenta de prier. Avait-il des pressentiments? Pourquoi pas? C'est qu'en effet, les prédictions et les présages ne lui avaient pas manqué. D'abord, une de ces prédictions qui lui avait été faite et qui avait déjà failli se réaliser 2 fois, c'est qu'il périrait en carrosse. La première fois qu'il pensa périr ainsi, c'était pendant le siège de la Fère. Il accompagnait la duchesse de Beaufort de Taverny à Mouy. Les chevaux bronchèrent dans un mauvais passage et entraînèrent le carrosse dans un précipice. Le carrosse fut brisé et les 4 chevaux qui le traînaient ou tués ou estropiés. Nous avons raconté l'autre événement et dit comment, en traversant le bac de Neuilly, le carrosse était tombé dans la rivière. 5 personnes étaient dans le carrosse royal. Le roi, la reine, la princesse de Conti, le duc de Montpensier et le duc de Vendôme. Le roi et le duc de Montpensier sautèrent par la portière avant que le carrosse fût dans l'eau. Mais la reine, la princesse de Conti et le duc de Vendôme n'eurent point le même bonheur. On tira la princesse de Conti la première, elle était du côté du carrosse qui surnageait. Le carrosse continuait de s'enfoncer. La châtaigneraie plongea et tira la reine par les cheveux. Restait le duc de Vendôme. La châtaigneraie plongea de nouveau et eut le bonheur de sauver le jeune prince. La châtaigneraie fut récompensée en supposant que l'on récompense de pareils services par le don d'une enseigne en diamant de 4 000 écus et par sa nomination à la place de capitaine des gardes de la reine. Donc, comme nous le disions, le roi, 2 fois déjà, avait failli périr en carrosse. On avait, en outre, fait son horoscope en Allemagne. Cet horoscope disait que sa vie serait tranchée par un coup violent dans la 57e année de son âge. De plus, un grand mathématicien avait publié que Henri allait, heureusement et triomphalement, à la monarchie de l'Europe, si un terrible accident dont il était menacé ne l'arrêtait pas au milieu de son glorieux chemin. Ce même homme, qui avait prédit au duc de Guise son assassinat aux États de Blois et au duc de Mayenne la perte de la bataille d'Ivry, avait dit que, cette année 1610, le roi mourait de mort violente. On avait trouvé sur un hôtel, à Montargis, la prédiction de cette désastreuse journée et l'on avait vu à Boulogne pleurer une image de la Vierge. La maréchale de Retz racontait que la reine Catherine, désireuse de savoir ce que deviendraient ses enfants et quel était celui qui leur succéderait, avait été trouvée un magicien et que celui-ci lui avait fait voir un miroir représentant une salle dans laquelle chacun de ses fils lui était apparu, faisant autant de tours qu'il devait vivre d'années. François II avait paru le premier et fait 1 tour. Charles IX parut le second et fit 14 tours. Henri III parut le troisième et fit 15 tours. Enfin, Henri de Béarn était apparu le 4e, en avait fait 21 et avait disparu. Pendant l'appareil du couronnement, on montra au roi une prédiction venue d'Espagne. Elle disait qu'un grand roi, qui avait été prisonnier dans sa jeunesse, mourait au mois de mai. Mais le roi secoua la tête. « Il ne faut se fier à rien, dit-il, de ce qui vient d'Espagne. » et cependant, se retournant vers Sully, « Sully, dit-il, j'ai quelque chose sur le cœur qui m'empêche de me réjouir. » L'arbre planté dans la cour du Louvre, le premier jour de mai, tomba de lui-même sans effort et la tête tournée vers le petit degré, le 9e jour du même mois. Bassompierre et le duc de Guise étaient appuyés en ce moment sur les barres de fer du petit perron au devant de la chambre de la reine. Bassompierre secoua la tête et montrant l'arbre tombé au duc de Guise. « Si nous étions en Allemagne ou en Italie, dit-il, on prendrait cette chute pour un mauvais signe et pour le renversement de l'arbre à l'ombre duquel se repose le monde. » Le roi était derrière eux sans qu'ils le vissent. Il passa, à leur grand étonnement, sa tête entre leurs deux têtes. « Est-ce que vous avez entendu, sire ?» lui demanda Bassompierre. « Par ma foi, oui, dit le roi, mais voilà 20 ans que j'ai les oreilles rebattues de ces présages. Il n'en sera que ce qui plaira à Dieu. » La reine, de son côté, crut devoir faire 2 songes qui ajoutaient encore à toutes ses craintes vagues qui semblaient planer au-dessus du Louvre. Elle rêva d'abord, et c'était au moment où les orfèvres dressaient sa couronne, que tous les diamants que l'on avait donnés pour enrichir cette couronne s'étaient changés en perles. Or, dans la langue des songes, les perles veulent dire des larmes. Elle se rendormit, mais une demi-heure après, elle se réveilla, tressaillant et poussant un cri. « Qu'avez-vous, mamie ? » lui dit le roi. « Oh ! » s'écria la reine, « le vilain songe que je viens de faire !»« Et qu'avez-vous donc songé ?»« Oh, rien ! Vous savez que les songes sont mensonges !»« Dites toujours !»« Eh bien, j'ai songé que l'on vous donnait un coup de couteau sur le petit degré !»« Par bonheur, ce n'est qu'un songe !» dit le roi. « Ne voulez-vous pas, insista la reine, que je fasse lever la renouillère ?» La renouillère, c'était la première femme de chambre. « Oh ! » dit le roi, « il n'est pas besoin pour si peu. » Et il se rendormit aussitôt, car, dit Mathieu, son historien, il était prince si bien composé qu'il avait 2 choses à sa disposition, la veille et le sommeil. Le 9 au soir, Henri était en train de jouer au tric-trac. Il lui sembla plusieurs fois voir des taches de sang sur l'ivoire et l'ébène. Il essaya de les essuyer avec son mouchoir, d'abord sans rien dire, puis ensuite en demandant à son partenaire s'il ne voyait pas comme lui ces taches de sang. C'était son présage de la Saint-Barthélemy qui se renouvelait. Alors il sortit pour prendre un peu d'air. Il avait à la fois la vue et le cœur troublés. Après le jeu, la reine soupait dans son cabinet et y était servie par ses filles. Le roi y entra, s'assit près d'elle, et non pas par soif, mais par une espèce de galanterie conjugale, il but 2 fois ce qu'elle avait laissé dans son verre. Puis, tout à coup, il se leva et sortit pour aller se mettre au lit. Ce fut cette nuit-là qu'il ne put dormir et se releva, essayant de prier. Donnons minute par minute les détails de ce dernier jour, 14 mai 1610. Le roi s'éveilla de meilleure heure encore que d'habitude, c'est-à-dire vers les 4 heures du matin. Il passa aussitôt dans son petit cabinet pour y prendre ses habits. Là, et tout en s'habillant, il fit appeler M. de Rambure, qui était arrivé la veille au soir. Puis, à 6 heures, il se jeta sur son lit pour faire plus tranquillement ses prières. Tout en faisant ses prières, il entendit que l'on grattait à la porte. « Laissez entrer, dit-il, ce doit être monsieur de Villeroy. » Il l'avait, en effet, envoyé quérir par la varenne. Il lui parla longuement d'affaires, puis, le renvoyant aux Tuileries pour ce qui restait à lui dire, il lui commanda de tirer le rideau et continua de se recommander à Dieu. Ses prières finies, il acheva toutes ses expéditions au duc de Savoie et les scella lui-même de son sceau. Puis il passa aux Tuileries, demeura plus d'une demi-heure à se promener avec le dauphin, parla au cardinal de Joyeuse et à plusieurs autres seigneurs, et recommanda d'apaiser la querelle que les ambassadeurs d'Espagne et de Venise avaient eue au couronnement. En quittant le dauphin, il alla au Feuillant, où il entendit la messe. Parfois, il y arrivait passé midi. Dans ce cas, il faisait au clergé ses excuses pour ce retard. Alors, il avait l'habitude de dire « Excusez-moi, mes pères, j'ai travaillé. Or, quand je travaille pour mon peuple, je prie. Travailler au lieu de prier, c'est laisser Dieu pour Dieu. » Il revint au Louvre. Mais avant de se mettre à table, il voulut voir un nommé d'Escure qui, par son ordre, venait de reconnaître le passage de la rivière de ce mois. Le passage était facile, commode et assuré par le pays de Château-Renaud, qui appartient en souveraineté à Madame de Conti. Le roi fut très joyeux d'apprendre ces nouvelles. On lui avait dit que le marquis de Spinola s'était emparé de tous ces passages. Et le rapport de Descure lui apprenait non seulement qu'il n'en était rien, mais encore que son armée était maintenue dans le meilleur état par M. de Nevers, que les Suisses avaient rejoint et que les équipages et l'artillerie étaient tout prêts. Puis il dîna et, pendant le dîner, fit appeler M. de Nesseltang pour lui adresser tous ses compliments sur la bonne tenue de son régiment, sur la rapidité avec laquelle il avait été équipé, le priant d'être certain que tous les frais qu'il avait faits lui seraient remboursés. « Sire, répondit M. de Nérestan, je cherche les moyens de servir votre majesté sans songer aux récompenses, certain que je suis de n'être jamais pauvre sous un roi si grand et si généreux. » Oui, vous avez raison, monsieur de Nérestan. C'est au sujet d'oublier leur service, mais c'est au roi de s'en souvenir. Mes serviteurs doivent se fier à moi, et moi je dois avoir soin d'eux. Il est vrai que ceux à qui j'ai fait plus de bien qu'à vous ne le reconnaissent pas si bien que vous. C'est de grands bienfaits que se forment les grandes ingratitudes. Comme il achevait ces paroles, entrèrent madame, qui fut depuis madame Henriette, madame Christine, qui fut depuis duchesse de Savoie, et mademoiselle de Vendôme. Le roi demanda aux trois enfants s'ils avaient dîné. Madame de Montglas, leur gouvernante, répondit qu'elle avait fait dîner les princesses à Saint-Denis, où elles avaient visité les reliques et le trésor. « Vous êtes-vous réjouis ?» demanda le roi. « Oui, » dit mademoiselle de Vendôme. « Seulement, monsieur le duc d'Anjou a beaucoup pleuré. » « Pourquoi cela ?» demanda le roi. « Parce que, ayant demandé qui était dans un tombeau qu'il regardait, il lui fut répondu que c'était vous. »« C'est qu'il m'aime, le pauvre enfant, » dit le roi. « Hier, pendant toute la cérémonie, comme il ne me voyait point, il n'a fait que crier « Papa !» Après le dîner, il s'arrêta longtemps à parler au président Jeannin et à Arnaud, intendant de ses finances, leur disant qu'il était résolu à travailler à la réforme de l'État, à soulager la misère et l'oppression de son peuple, à ne plus souffrir qu'il y eût en France d'autres pouvoirs que la vertu et le mérite, ni que la vénalité des offices rendît profane les choses sacrées, de seconder vertueusement et courageusement ses intentions. Puis il passa dans les appartements de la reine, suivi du seul marquis de la Force. La reine était dans son cabinet, où elle donnait des ordres pour tout ce qui était nécessaire à la pompe et à la magnificence de son entrée. Au moment où Henri apparut sur le seuil, elle invitait l'évêque de Béziers, son grand aumônier, à aller à la conciergerie du palais pour y prendre 2 maîtres des requêtes et aviser avec eux à l'élargissement des prisonniers. Puis, entendant la duchesse de Guise qui parlait d'aller en ville, « Ne bougez pas d'ici, cousine, dit le roi, nous rirons. » « Impossible que je ne sorte pas, sire, » dit-elle. « J'ai convoqué une assemblée de quelques avocats du Parlement. »« Eh bien, » dit-il, « je vais aller voir la princesse de Conti. J'ai en outre grande envie d'aller à l'arsenal. Mais si j'y vais, je m'y mettrai en colère bien certainement. »« N'y allez pas, sire, restez avec nous et tenez-vous en belle humeur, » dit la reine. Malgré cet engagement, il sortit du cabinet de la reine et rentra chez lui pour écrire. Il était sous le poids de cette agitation qui tourmente les gens menacés d'un grand malheur et que leur instinct pousse à y échapper. Il s'assit à une table, prit une plume, du papier et écrivit. Mais à la 5e ligne, il s'arrêta, fit appeler la claverie qu'il avait envoyée à l'ambassadeur de Venise au sujet de la querelle que celui-ci avait eue lors du couronnement avec l'ambassadeur d'Espagne, causa avec lui quelques instants, continua d'écrire. Puis, après qu'il eut écrit et qu'il eut remis la lettre à la personne qui l'attendait, il s'approcha d'une fenêtre et, portant sa main à son front, il dit « Mon Dieu, qu'ai-je donc là qui me trouble si fort ?» Puis il sortit de son cabinet et rentra dans la chambre de la reine. Là, il trouva le chancelier et lui parla longtemps de ses projets d'avenir, comme si, près de quitter le monde, il s'empressait d'initier le premier officier de sa justice à ses dernières intentions. Après cette conversation, tous deux se quittèrent. « Sire, dit le chancelier, je vais tenir votre conseil. »« Et moi, répondit le roi en l'embrassant, je vais dire adieu à ma femme. » Sur quoi il rentra une seconde fois dans le cabinet de la reine, où il se mit à jouer avec ses enfants. « Je ne sais ce que j'ai aujourd'hui, madame, dit-il à la reine, mais le fait est que je ne puis me décider à sortir de chez vous. »« Mais demeurez-y donc, dit la reine, qui vous force à aller dehors ?» Alors, se tournant vers Vitry, son capitaine des gardes, « Vitry, dit-il, allez au palais et mettez ordre au festin royal. J'y serai moi-même à 6 heures pour voir comment toutes choses seront ordonnées. »« Sire, dit de Vitry, je vais obéir à votre majesté, mais j'aimerais mieux rester ici. »« Et pourquoi cela ?»« Sire, je ne puis être en 2 lieux à la fois. Or, quand je vous vois à la chasse, sans vos gardes, ou au promenoir peu accompagné, je n'ai pas un instant l'esprit en repos. Jugez donc de mes craintes en ce moment, dans cette grande ville qui est pleine d'un nombre incroyable d'étrangers et d'inconnus. » « Allons, allons, reprit le roi, vous êtes un cajoleur, Vitry. Vous voulez demeurer ici pour causer avec les femmes. Faites ce que je vous dis, il y a 50 ans que je me garde sans capitaine et je me garderai bien aujourd'hui encore tout seul. » « Oh, quant à cela, répondit de Vitry, il n'est plus besoin que votre majesté se garde toute seule. J'ai en bas 12 d'hommes à son service et qui peuvent l'accompagner si elle le désire. » Vitry partit. Alors le roi s'avança sur le perron de la chambre de la reine et demanda si son carrosse était en bas. On lui répondit que oui. Ces paroles furent entendues d'un homme qui était assis sur les pierres de la porte du Louvre où les laquais attendent leur maître. Cet homme, auquel personne ne fit attention, se leva et s'en alla attendre le roi entre les 2 portes. Le roi rentra dans le cabinet, dit par 3 fois adieu à la reine, l'embrassant comme si son cœur eût témoigné le regret qu'il avait de se séparer et arracher du sien. « Sire, dit la maréchale de la Châtre en voyant ses caresses, je crois que votre majesté devient tous les jours plus amoureuse de la reine. » « Eh bien, maréchal, qu'avez-vous à dire à cela ?»« J'ai à dire, sire, que vos bons serviteurs reçoivent un grand contentement. »« Et moi, une grande joie, » dit la reine. Henri embrassa pour la 3e fois Marie de Médicis et sortit. En descendant le petit degré, il rencontra le maréchal Boisdauphin et lui ordonna de se tenir prêt à partir pour l'armée. Puis, descendu dans la cour, il vit le duc d'Anjou qui y jouait, et lui montrant Bassompierre. « Connais-tu ce monsieur-là » lui demanda-t-il. Enfin, à 3h15, il monta en carrosse, prit la principale place. Mais, ayant rencontré le duc d'Épernon, et ayant su qu'il avait affaire en ville, il le fit placer à sa droite. À la portière, du même côté, était le maréchal de Laverdun et monsieur de Roquelaure. À l'autre, le duc de Montbazon et le marquis de La Force. Sur le devant, Liancourt, son premier écuyer, et le marquis de Mirabeau. Le cocher fit demander l'ordre par l'écuyer de service. « Sortez d'abord du Louvre, » répondit le roi. Puis, étant sous la voûte de la première porte, il fit ouvrir le carrosse de tous les côtés. L'homme qui l'attendait entre les 2 portes était à son poste. Mais voyant que le duc d'Épernon était à la place du roi et ayant entendu ces mots « à l'arsenal », il espéra trouver sur la route plus de facilité à son dessein et, se glissant entre la voiture et la muraille, il alla attendre le roi, appuyé à l'une de ces petites boutiques qui sont près des Innocents, rue de la Ferronnerie. En face de l'hôtel de Longueville, le roi fit arrêter le carrosse et renvoya tous ceux qui l'accompagnaient. Alors le cocher demanda une seconde fois où il devait aller, comme si la première il n'eût point entendu. « À la croix du Trahoir, » dit le roi. « Et de là ?»« De là, je dirai plus tard où je veux aller. » Et le cocher s'arrêta à la croix du Trahoir. Le roi hésita un instant s'il irait chez Mademoiselle Paulet ou à l'arsenal. Il décida d'aller à l'arsenal d'abord et chez Mademoiselle Paulet au retour. Il passa sa tête hors de la portière et dit tout haut « À l'arsenal, en passant par le cimetière Saint-Innocent. » Et comme il faisait chaud, il quitta le manteau qui l'enveloppait et le mit sur ses genoux. On arriva à la rue de la Ferronnerie. À l'entrée de la rue, le roi vit dans son carrosse M. de Montigny et, se penchant encore une fois hors du carrosse, il lui cria « Seigneur Montigny, serviteur !» Puis le carrosse du roi entra dans la rue. La rue était encombrée de loges et de boutiques joignant la muraille du cimetière Saint-Innocent. Le 14 mai 1554, il y avait juste 56 ans, le roi Henri II étant à Compiègne et considérant que cette rue de la Ferronnerie était la voie ordinaire que suivaient les rois de France pour s'en aller du Louvre en leur château des Tournelles, avait rendu un édit par lequel ces boutiques devaient être démolies et abattues. L'édit avait été ratifié en Parlement, mais son exécution avait été négligée. C'était au milieu de ces loges et de ces boutiques que l'homme qui s'était levé de dessus une des pierres posées à l'entrée du Louvre attendait le roi. Or, comme pour seconder les mauvais desseins de cet homme, il arriva qu'en entrant dans la rue, le carrosse du roi trouva deux charrettes, l'une chargée de foin, l'autre de vin. La charrette de foin, qui tenait le milieu de la rue, fut cause que le cocher prit tout à fait à main gauche, s'arrêtant à toute minute. Les valets de pied étaient, à cause de l'embarras, passés par le cimetière. Plusieurs personnes, alors, commencèrent de passer entre le carrosse et les petites boutiques dont nous avons parlé. Un homme vint à son tour, suivant le même chemin, le manteau sur l'épaule gauche et dessous un poignard qu'il tenait caché. Le roi avait la tête tournée à droite. Il parlait à d'Épernon, auquel il venait de donner un papier. Il avait le bras droit sur le col du duc, son bras gauche était sur l'épaule du duc de Montbazon, qui tournait la tête pour n'avoir pas l'air d'écouter ce que le roi disait au duc d'Épernon et au maréchal de Lavardin. Voici ce qu'il disait. « À notre retour de l'arsenal, je vous ferai voir les plans que Descure a faits pour le passage de mon armée. Vous en serez aussi content que je l'ai été moi-même. » Tout à coup, il s'interrompit pour dire « Ah, je suis blessé !» Puis il ajouta « Ce n'est rien !» Mais en même temps, il poussa un soupir plutôt qu'un cri et le sang jaillit de sa bouche à gros bouillons. « Oh, sire !» s'écria d'Épernon, « pensez à Dieu !» Le roi entendit encore ces paroles car il joignit les mains et leva les yeux au ciel. Mais presque aussitôt, sa tête tomba sur l'épaule du duc. Il était mort. Voici ce qui s'était passé. L'homme au manteau et au couteau avait profité du moment où le seul valet de pied qui resta près du roi remettait sa jarretière. Il se glissa entre lui et le carrosse et, par-dessus la roue, passa son bras par la portière et frappa le roi de deux coups de couteau. Il lui emporta un troisième, mais celui-là, le duc de Montbazon le reçut dans la manche de son pourpoint. Le premier coup qui avait fait dire au roi « Je suis blessé » avait frappé entre la seconde et la troisième côte, mais sans pénétrer dans la cavité de la poitrine, avait glissé sous le muscle pectoral. Le second avait porté un peu plus bas, au milieu du flanc, entre la cinquième et la sixième côte, avait pénétré dans la poitrine, traversé un des lobes du poumon et tranché l'artère au-dessous de l'oreillette gauche du cœur. C'était celui-là qui avait fait jaillir le sang de la bouche du roi. La mort fut presque instantanée. À ce cri et à ce mouvement qui se passait dans l'intérieur de la voiture, le peuple se groupa autour du carrosse, empêchant ainsi l'assassin de fuir. Le cocher, lui, était si éperdu qu'il n'essayait ni d'avancer ni de reculer. Saint-Michel, un des gentilshommes ordinaires qui venait derrière la voiture, vit le coup, mais trop tard pour l'empêcher. Il s'élança sur l'assassin l'épée haute. Mais d'Épernon lui cria « Sur votre tête, ne le touchez point, le roi n'a pas de mal !» Puis, saisissant les mains de l'assassin, il lui arracha le couteau. En même temps, le comte de Courson lui donnait dans la gorge un coup du pommeau de son épée, tandis que Lapierre, un des capitaines exempts des gardes, s'emparant de lui, le mit entre les mains des valets de pied. Aussitôt, M. de Liancourt sauta à bas du carrosse afin de se rendre à l'hôtel de ville pour mettre ordre à ceux qui étaient de sa charge. Monsieur de la Force courut à l'arsenal pour en aviser Monsieur de Sully. D'autres encore se rendirent en toute hâte au Louvre pour veiller à la sûreté du dauphin. Enfin, Consigny courut à la chambre de la reine et, à travers la porte entrebâillée, lui jeta ces mots « Et ammazzato !» Puis on détourna le carrosse et on prit le chemin du Louvre. En entrant dans la cour, on cria, comme c'était l'habitude dans les cas d'accident, « Au vin et au chirurgien !» Mais l'un et l'autre étaient inutiles. On savait déjà la blessure, mais on ne sut la mort que lorsqu'on tira le roi de son carrosse. Il fut porté sur le lit de son petit cabinet par le duc de Montbazon, par De Vitry, par le marquis de Noirmoutier et par deux ou trois écuyers qui se trouvaient là. Petit, son premier médecin, fut appelé. Il prétendit que le roi n'avait rendu le dernier soupir que sur le lit et que, lui voyant encore quelques restes de vie, il lui avait dit « Sire, souvenez-vous de Dieu, dites en votre cœur, Jésus, fils de David, ayez pitié de moi !» et qu'alors le roi avait par trois fois ouvert les yeux. Un autre gentilhomme affirma la même chose à Mathieu, historien du roi. Puis on s'enquit de l'assassin, de ce qu'il était et des causes qu'il avait portées à cet assassinat. Le jour même, le président Jeannin interrogea le meurtrier. On sut alors qu'il s'appelait François Ravaillac, qu'il était né à Angoulême en 1579 et par conséquent était âgé de 31 ans. L'assassin avait été conduit à l'hôtel de Retz. Pour avoir meilleur marché de lui, le président Jeannin, qui l'interrogea le premier, lui dit que le roi n'était pas mort. Mais lui, secouant la tête, répondit « Vous me trompez, le couteau est entré si avant que mon pouce a touché le pourpoint. » Parmi les papiers qu'il avait sur lui était une pièce de verre en forme de stance composée pour un homme que l'on conduit au supplice. On lui demanda d'où elle venait. Il répondit « D'un apothicaire d'Avignon qui se mêle de faire des verres et m'a consulté sur ceci. » D'Épernon s'inquiéta et, sous prétexte qu'il n'était point assez bien gardé à l'hôtel de Retz, le fit transporter chez lui. Il resta là jusqu'au lundi 17. Le 17, on le conduisit à la conciergerie. Sans doute, la vie lui avait été promise car l'assassin s'obstinait à dire qu'il n'avait point de complice, qu'il avait obéi à une voix d'en haut et qu'ayant appris que le roi allait faire la guerre au pape, il avait cru être agréable à Dieu en tuant celui qui menaçait son représentant sur la terre. Mais, quelle que fût la fermeté de ses réponses sur ce point, on n'en voulait rien croire. Chacun alors proposa de nouveaux modes de torture pour arriver à lui faire dire la vérité. La reine écrivit en recommandant un boucher qui s'offrait pour dépouiller vif l'assassin, et cela avec tant d'adresse que la force, une fois écorchée, lui resterait encore d'avouer ses complices et de supporter son châtiment. La cour admira cette offre d'une princesse qui voulait que chacun connût que la justice n'avait rien omis pour la réparation de la publique offense. Elle loua cette sollicitude d'une veuve et d'une mère, mais elle ne crut pas devoir accepter cette proposition. Un architecte, nommé Balbani, inventeur des cités modernes, proposa une torture de sa façon. C'était un trou en terre, ayant la forme d'un cône renversé, dont les parois lisses et glissantes n'offraient aucune aspérité où le corps pût se retenir. On y laisserait glisser le coupable, qui, par son propre poids, s'affaisserait sur lui-même, de manière que les épaules, disait-il, finiraient par se joindre au talon, et cela avec des douleurs lentement cruelles, mais qui n'ôtaient rien au corps de ses forces. De sorte qu'on pourrait retirer le patient à volonté et, en 4 heures, le remettre en état de supporter le même supplice jusqu'à ce qu'il eût parlé. Mais la cour ne jugea pas à propos d'user d'autres tortures que celles qui étaient en usage. Un instant seulement, elle fut en doute. Le criminel devait-il être appliqué à la question avant d'être condamné à mort? Les formes ordinaires ne le permettaient point, car la question ne se donnait qu'en 2 cas. L'un avant le jugement, pour avoir la preuve du crime, l'autre après le jugement, pour connaître les complices ou les instigateurs. Or, la question n'était point nécessaire pour le premier cas, puisque le criminel, pris au moment où il exécutait le crime, non seulement ne le niait pas, mais encore s'en vantait. À force de recherche, la cour trouva un arrêt qui la tirait d'embarras. Un homme qui avait attenté par le poison à la vie de Louis XI avait eu plusieurs fois la gêne et à divers jours avant la condamnation. Le Parlement n'en demandait pas davantage. Sur la lecture de cette pièce, la cour ordonna que l'assassin serait appliqué à la torture 3 fois en 3 jours différents. Mais il soutint la première épreuve avec un si grand courage, ses réponses furent si conformes à celles qu'il avait déjà faites, que l'on craignit de lui enlever des forces qui devaient être ménagées avec soin pour qu'il pût jusqu'au bout endurer le supplice. Seulement le procureur général, Laguelle, qui était malade, forçant son indisposition, se fit porter au parquet pour prendre ses conclusions avec les avocats du roi. Et considérant qu'un pareil crime devait être puni par les châtiments les plus sévères, il requit que, outre le tenaillement et le démembrement, une nouvelle peine fût ajoutée. C'est que le tenaillement se ferait avec des tenailles rougies au feu et que, dans les blessures faites par elles, on verserait du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix enflammée et de la cire et du soufre mêlés ensemble. C'était la première fois que pareille proposition était faite. Elle fut acceptée. En conséquence, l'arrêt fut rendu en ces termes. Déclare, le prévenu atteint et convaincu du crime de lèse-majesté divine et humaine, au premier chef pour le très méchant, très abominable et très détestable parricide commis en la personne du roi, de très bonne et très louable mémoire. Et pour la réparation, condamne le meurtrier à faire amende honorable devant la principale porte de l'église de Paris, nu, en chemise, tenant une torche ardente du poids de 2 livres. Dire et déclarer que, malheureusement et prodigieusement, il a commis et tué le roi de 2 coups de couteau dans le corps. De là, conduit à la place de Grève et sur un échafaud, tenaillé aux mamelles, bras, cuisses, gras de jambes, la main droite tenant le couteau duquel a commis le parricide, ars et brûlé de feu et de soufre, et sur les endroits où sera tenaillé, jeter du plomb fondu, de l'huile bouillante, de la poix résine en flamme, de la cire et du soufre fondus ensemble. Ce fait, son corps tiré et démembré à 4 chevaux, ses membres et corps consumés au feu, réduits en cendres, jetés au vent, ses biens confisqués, sa maison de naissance démolie, son père et sa mère bannis du royaume de France et ses autres parents contraints de changer de nom. L'arrêt fut exécuté le même jour que prononcé. Et pour en voir l'exécution, tous les princes, seigneurs et officiers de la couronne et du Conseil d'État se trouvèrent en l'hôtel de ville, tandis que tout Paris s'entassait sur la place de Grève. On avait d'abord pensé à brûler le poing du condamné au lieu même où le parricide avait été commis. Mais on songea que la place était si étroite que quelques personnes à peine pourraient assister au prologue du supplice, et d'ailleurs que ce commencement d'exécution pourrait diminuer les forces dont le coupable avait besoin pour supporter les autres peines. Avant de mener le condamné en grève, on fit une dernière tentative de torture. On lui donna les brodequins. Le premier coin tira de sa bouche de grands cris, mais aucun aveu. « Mon Dieu ! Cria-t-il, ayez pitié de mon âme et me faites pardon de mon crime, mais punissez-moi du feu éternel si je n'ai pas tout dit. » Au second coin, il s'évanouit. On ne jugea pas à propos d'aller plus loin, et le bourreau s'empara de lui. Comme tous les fanatiques, il avait jugé son crime à travers sa propre opinion et croyait que le peuple lui saurait gré de son attentat. Son étonnement fut donc étrange quand, en sortant de la conciergerie, il se vit accueilli par des huées, des menaces et des malédictions. Ce fut au milieu des hurlements du peuple qu'il arriva à Notre-Dame. Là, il se jeta la face contre terre, baisa le bout de sa torche et montra un grand repentir. Ce fut d'autant plus remarquable qu'avant de quitter la maison, il avait encore blasphémé le roi et glorifié son crime. Le changement qui s'était fait en lui pendant le court trajet qui séparait la prison de l'échafaud était bien grand, puisque sur le point de quitter la charrette, le docteur Tilsac, qui l'assistait, lui voulant donner l'absolution, lui commanda de lever les yeux au ciel. Mais il lui répondit « Je n'en ferai rien, mon père, car je suis indigne de le regarder. » Puis l'absolution donnée « Mon père, dit-il, Je consens à ce que votre absolution soit convertie en damnation éternelle si j'ai supprimé quelque chose de la vérité. » L'absolution reçue, il monta sur l'échafaud, où on le coucha sur le dos. Puis on lui attacha les chevaux aux pieds et aux mains. Le couteau dont on lui perça la main n'était point celui dont il s'était servi pour commettre le crime. Car celui-là, après l'avoir montré au peuple qui accueillit sa vue d'un cri d'horreur, le bourreau le jeta à ses valets qui le mirent dans un sac. On remarqua que le condamné, tandis que sa main brûlait, eut le courage de lever la tête pour la regarder brûler. Sa main brûlée, on lui donna les tenailles. Alors les cris commencèrent. Peu après, on jeta le plomb fondu, l'huile bouillante, la poise enflammée, la cire et le soufre, le bourreau ayant bien soin de les faire pénétrer dans la chair vive. « Ce fut, dit Matthieu, la douleur la plus sensible et la plus pénétrante de tout le supplice, et il le montra bien par le soulèvement de tout son corps, le battement de ses jambes et le pétillement de sa chair. Mais cela, ajoute l'historien, ne fut capable d'émouvoir le peuple à pitié. Il eût voulu, quand tout fut fait, que l'on eût recommencé. Et cela est si vrai qu'un jeune homme qui regardait par une des fenêtres de l'hôtel de ville, au lieu de dire « Grand Dieu, quel tourment !» ayant eu le malheur de dire « Grand Dieu, quelle cruauté !» les menaces s'élevèrent contre lui, au point qu'il fut obligé de se perdre dans la foule. Sans quoi, il eût été mis en pièces. Arrivé à ce point, on fit une pause. Les théologiens s'approchèrent du patient et la jurèrent de dire la vérité. Lui, alors, déclara qu'il était prêt à parler. On appela le greffier. Le greffier monta sur l'échafaud et écrivit. Par malheur, le greffier avait une si mauvaise écriture que l'on y distinguait bien les noms de la reine et de M. d'Épernon, mais qu'on ne pouvait lire le reste. Cette pièce, écrite sur l'échafaud même, resta longtemps entre les mains de la famille Joly de Fleury. Alors on donna l'ordre et les chevaux commencèrent de tirer. Mais comme il n'allait pas assez rudement au gré du peuple peuple s'attela aux cordes. Un maquignon, voyant un des chevaux du supplice tout hors d'haleine, mit pied à terre, décela le sien et le mit en place. Et, dit le récit, ce cheval tint sa partie mieux que les autres et donna de si rudes secousses à la cuisse gauche qu'il la dénoua incontinent. Les cordes étaient lâches et, comme le malheureux fut longuement tiré, retiré et promené de tous côtés, ses flancs donnaient contre les piliers de l'échafaud et, à chaque choc, une côte pliait et se rompait. Mais il était si vigoureux qu'une fois, en repliant une de ses jambes, il fit reculer le cheval qui y était attelé. Enfin, l'exécuteur, voyant que tous ses membres étaient dénoués, rompus, froissés, qu'il était à l'agonie et que les chevaux n'en pouvaient plus, en eut pitié, peut-être aussi des chevaux, et voulut mettre le patient en quatre quartiers. Mais le peuple, devinant son intention, envahit l'échafaud et lui arracha le corps des mains. Les laquais lui donnèrent 100 coups d'épée et chacun lui tira son morceau de chair, de sorte qu'au lieu d'être coupé en 4 quartiers, il le fut en plus de 100. Une femme le déchirait avec ses ongles. Puis, voyant qu'il n'avait point assez de prise, elle le mordit à belles dents. Le corps s'en alla ainsi par lambeaux, de sorte que, quand le bourreau voulut exécuter la partie du jugement qui disait que les restes du parricide seraient jetés au feu, tout ce qui restait du parricide était sa chemise. Le corps fut brûlé par lambeaux sur toutes les places et dans tous les carrefours de Paris. Aujourd'hui encore, c'est-à-dire après 2 siècles et demi, l'assassinat est resté un mystère entre les coupables et Dieu. On soupçonne bien, les preuves morales étant là, mais les preuves matérielles manquent et, pour nous servir des termes du palais, l'histoire rendue une ordonnance de non-lieu. Mais voyez la reine insultée, méprisée, haïe. Voyez Concini déterrée, dépiécée, émiettée, pendue, mangée. Tout cela par le peuple. Pourquoi ? Parce que le peuple demeura convaincu que les vrais assassins, c'était le Florentin et la Florentine, Concini et la reine.